Aujourd'hui, nous accueillons Michel Blais, qui va prendre un petit peu de recul aussi, parce que vous verrez, c'est un historien des sciences, et il va nous parler donc de la lumière, et ça permettra de donner une épaisseur, je dirais, historique à cette série thématique sur les sciences physiques. Michel Blais est né en 1948. Il est actuellement directeur adjoint chargé de la recherche à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Son parcours, c'est il a été professeur de sciences physiques d'abord, puis il s'est orienté vers l'histoire des sciences. Il est devenu chargé de recherche au CNRS, puis directeur de recherche au CNRS à partir de 1992. Il a été directeur scientifique adjoint du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS. Bien sûr, il est, comme la plupart de nos intervenants ici, docteur de troisième cycle et docteur d'État. Docteur de troisième cycle en histoire et philosophie des sciences et docteur d'État, S-lettres et sciences humaines. Il est d'ailleurs actuellement rédacteur en chef de la revue d'histoire des sciences. Il l'est depuis 1985. Alors, premier livre que je signale de lui, c'est « La conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur », paru chez Vrin en 1983. Ensuite, entre autres, parce que je ne cite pas tout, « La naissance de la mécanique analytique, la science du mouvement au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », aux Presses universitaires de France en 1992. « Les raisons de l'infini, du monde clos à l'univers mathématique » chez Gallimard, dans la collection des essais, en 1993. Il a contribué beaucoup, je le signale au passage sans donner tout le détail, à la publication de textes de Newton, de Fontenelle, de Huygens, et puis deux dernières publications récentes, Dictionnaire critique de la science classique en collaboration avec Robert Halleux chez Flammarion en 1998, et enfin La naissance de la science classique chez Nathan en 1998. Donc je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes sur la lumière. Merci.
Bien, merci. Comme l'a laissé entendre la présentation que vient de faire de moi très, très gentil Yves Michaud, et ma conférence sera plutôt généraliste et plutôt historisante, c'est-à-dire que ce sera une mise en perspective de l'histoire de la lumière jusqu'à récemment. Mais l'idée, c'est plutôt de présenter l'ensemble des propriétés de la lumière et de ce qu'est la lumière, des enjeux qui ont été soulevés au cours des deux derniers siècles ou trois derniers siècles concernant la lumière. Alors, en effet, ce n'est qu'au XVIIe siècle que les théories physiques de la lumière, c'est-à-dire l'étude de la lumière et des phénomènes lumineux au sens où nous l'entendons encore aujourd'hui, connurent leur véritable essor. Et là, il est toujours très important de ne pas faire, disons, d'erreurs historiques. Souvent, on fait remonter certains concepts très loin dans le temps, et c'est une mauvaise chose, car les problématiques ne sont pas les mêmes. Et en effet, si depuis l'Antiquité, les travaux sur la lumière n'ont pas manqué, la plupart d'entre eux s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion centrée sur le problème de la vision et du regard, plutôt que sur celui de la nature de la lumière. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la nature de la lumière. Ce qui intéressait les anciens, c'est la question de la vision. Comment je vois ? Donc de cela suit des considérations d'optique tout à fait différentes. Par exemple, les atomistes, Épicure ou Lucrèce, imaginent que la vision s'effectue par l'intermédiaire d'une émanation provenant des objets et dont les dimensions, diminuant en s'approchant de l'œil, s'inscrivent dans un cône, ayant l'œil pour sommet et l'objet pour base. Cette interprétation de la vision par l'intermédiaire des émanations et des simulacres est cependant rejetée par la plupart des penseurs de l'Antiquité. Ces derniers s'accordent plutôt à considérer qu'un rayon visuel émis par l'œil va à la rencontre des objets et permet ainsi leur vision. Il ne faut donc pas confondre cette interprétation avec notre optique à nous. Deux brefs extraits éclairent cette thèse. Par exemple, dans les postulats de l'optique d'Euclide, 3e siècle avant Jésus-Christ, 1. Les lignes droites issues de l'œil franchissent des distances d'une grande longueur. Et deuxième postulat, la figure circonscrite par les rayons visuels est un cône qui a son sommet dans l'œil et sa base aux limites de ce qui est vu. De même, Platon, dans le Timée, souligne l'identité qui unit le regard à la lumière. Je cite, « Ainsi, lorsque la lumière du jour enveloppe le flux visuel, le semblable rencontre le semblable, se fond en lui, se fond en lui complètement et il se forme une seule substance unifiée, droit devant les yeux, dans la direction où le feu jaillit de l'intérieur, fait pression sur ce qu'il heurte à l'extérieur. C'est donc un feu visuel qui rencontre la lumière extérieure. Donc nous sommes loin de nos conceptions actuelles. À la lecture de ces deux textes, mais aussi à celle d'Épicure et de Lucrèce, il apparaît donc particulièrement peu fondé de rapprocher la constitution de l'optique antique, sous-tendue pour l'essentiel par la conception du cône de rayon visuel, avec la constitution d'une physique de la lumière dégagée de la problématique de l'homme voyant, qui est notre problématique à nous. C'est Kepler, 1571-1630, prolongeant les études d'Arlazen, de Robert Grosstead, de John Peacham, de Vitello, qui assimile définitivement dans les Paralipomènes à Vitellion, publié à Francfort en 1604, l'œil à un dispositif optique conduisant à la formation d'une image réelle sur la rétine. L'optique physique acquiert son autonomie. L'analyse de la lumière devient, en se libérant du problème de la sensation visuelle, un véritable objet de recherche. Et dans ce cadre, une nouvelle distribution du savoir se met alors en place avec Kepler et surtout avec Descartes, amenant à retenir trois champs d'investigation: la nature physique de la lumière, la transmission de l'image rétinienne au cerveau, anatomie et physiologie, la représentation mentale, et dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, je ne m'attacherai qu'au premier aspect, c'est-à-dire la nature physique de la lumière, laissant à d'autres conférenciers le soin de traiter des problèmes d'anatomie et de physiologie et des problèmes de représentation mentale. Ce qui est important, c'est de voir que le champ de savoir se structure en ce début du XVIIe siècle et les disciplines apparaissent, ce qui n'existait pas avant apparaît à ce moment. Donc le point de départ, si l'on peut dire, de la physique de la lumière, c'est la problématique mécaniste cartésienne. Et vous allez voir que, d'entrée de jeu, tous les problèmes qui vont traverser l'histoire de la lumière jusqu'à Louis de Broglie, finalement, sont déjà là. On va les voir travailler progressivement au cours des siècles. Donc le développement des théories physiques de la lumière au XVIIe siècle est associé le plus souvent à la construction de modèles mécaniques. Comment expliquer, et c'est ça qui crée la nouveauté, comment expliquer à l'aide des seuls concepts de la physique mécaniste les propriétés connues de la lumière, et à l'époque, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIIe siècle, la propagation rectiligne, la réflexion, la réfraction ou la genèse des couleurs. Ce sont les seules propriétés à cette époque connues de la lumière. Alors, ce type d'approche a été véritablement initié par Descartes. Dans son monde plein, la propagation de la lumière est caractérisée par une inclination au mouvement, une poussée, un effort, c'est-à-dire qu'elle se fait, c'est ça qui est important, sans transport de matière. C'est une sorte d'impulsion qui part de la source lumineuse jusqu'à l'œil. C'est une impulsion, il n'y a pas de transport de matière. Ce qui est derrière ça, évidemment, ce seront dans les décennies qui vont suivre, les théories ondulatoires de la lumière. On voit déjà le premier aspect. Il n'en reste pas moins, et c'est là tout le problème, il n'en reste pas moins que dans les premières pages de la Dioptrique, publiée en 1637 après le discours de la méthode, Descartes introduit trois comparaisons pour aider à concevoir la lumière en la façon qui me semble la plus commode pour expliquer toutes ses propriétés. Or, dans la troisième comparaison, consacrée à l'explication des phénomènes de la réflexion et de la réfraction, Descartes fait appel au mouvement d'une balle rencontrant une surface. C'est dès l'étude de cette comparaison et de ce mouvement, dans les discours seconds, que Descartes tire sa fameuse loi de la réfraction, exprimant que le sinus de l'angle de réfraction et le sinus de l'angle d'incidence sont dans un rapport constant. Je signale, d'un point de vue historique, que l'expression de ce rapport est déjà présente dans un manuscrit arabe de Himsal au IXe siècle et a été retrouvée à la même époque que Descartes, au XVIIe siècle, par divers savants comme Thomas Harriot ou Snell. Donc la loi de la réfraction, c'est quelque chose qui est multiple, si je puis dire, au niveau de ceux qui la donnent. Et que de cela, il conclut, de sa loi de la réfraction, et que de cela, il conclut que la lumière se déplace plus aisément dans les corps durs comme le cristal que dans les corps mous comme l'air. Ce résultat sera plus tard discuté. Ce résultat est contesté dès 1657 par Pierre Fermat, dans sa correspondance avec Marin Curot de la Chambre. Fermat, en s'appuyant à la fois sur le principe affirmant que la lumière suit toujours la trajectoire qui minimise le temps du déplacement, ainsi que sur ses nouvelles mathématiques, parvient à retrouver la loi de la réfraction, mais en considérant que la vitesse de propagation de la lumière est plus grande dans les milieux rares que dans les milieux denses. Ça, c'est un problème dont une première réponse sera donnée au XIXe siècle. hein, les expériences sur de mesure de la vitesse de la lumière. Si la propagation de la lumière est bien considérée par Descartes comme une inclination au mouvement sans transport de matière, la troisième comparaison de la dioptrique, celle de la balle, ouvre cependant la voie à une conception qui pourrait être corpusculaire de la lumière. Ainsi, tant chez Descartes que dans les discussions engagées par Fermat, se fait déjà jour le grand débat qui va gouverner le développement des théories physiques de la lumière. Celle-ci est-elle une onde, c'est-à-dire un mouvement sans transport de matière, ou un déplacement de matière, fluide, corpuscule? Alors, avant d'en venir à l'analyse des enjeux de ce débat, qui va prendre sa forme définitive avec Christian Huygens et Newton, il importe de faire le point sur les principales découvertes expérimentales qui ont marqué la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et en effet, un certain nombre de phénomènes bien connus, de phénomènes lumineux bien connus, ont pour la première fois été observés à partir de 1650. Alors, la première expérience, la première découverte, c'est le phénomène de la diffraction, phénomène bien connu aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'observe avec une lumière monochromatique. Je reviendrai tout à l'heure sur les lumières monochromatiques, et c'est très facile d'observer des figures de diffraction. C'est beaucoup plus difficile d'observer des figures de diffraction avec la lumière du jour. Alors, je vais vous montrer ici les figures de diffraction décrites par le premier qui les a observées, c'est-à-dire Francesco Maria Grimaldi, qui a publié cela dans un gros ouvrage en 1665 qui s'appelle Physico-Mathesis de Lumine Coloribus et Iridé. L'ouvrage est énorme, la diffraction occupe une vingtaine de pages. Ah. Et c'est lui qui a introduit le terme de diffraction. Alors, voilà. Des figures de diffraction. Alors, lumière. Voilà, alors je vais. Alors, utilisant un faisceau très étroit de lumière naturelle, Grimaldi observe par exemple dans une pièce sombre que lorsqu'un petit objet est placé dans un cône lumineux émergeant d'une petite ouverture, l'ombre portée sur un écran blanc n'est pas, comme le suggère l'optique géométrique, nettement séparée de la zone lumineuse, mais que l'ombre est bordée par trois traînées lumineuses qu'il appelle Series Lucidae, et ces traînées lumineuses sont lumineuses et colorées. Grimaldi multiplie les expériences et, à l'issue de ses travaux, rejette l'idée que ces séries pourraient être dues à la lumière directe ou à de la lumière réfractée, puisqu'elles ne dépendent pas de la nature de l'obstacle. Il fait des expériences avec différentes substances, ou bien encore dépendent de la lumière réfléchie, puisqu'elles ne dépendent pas du bord de l'obstacle. Ces expériences, c'est très intéressant, seront reprises par Fresnel, citant Grimaldi, au début du XIXe siècle, lorsque l'optique ondulatoire reprendra force. Mais après la période newtonienne, ces expériences-là disparaissent un peu. Grimaldi en conclut que la lumière doit se propager d'une autre façon, bien distincte des trois précédentes, et à laquelle il faut donner un nom, la diffraction. Donc on avait propagation directe, réflexion, réfraction, on a un nouveau mode de propagation, qui maintenant est bien connu, c'est la diffraction, et là vous observez les premières figures de diffraction dessinées par un observateur. Alors, il y a un autre type de phénomènes qui sont observés à la même époque. Ce sont les phénomènes qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes d'interférence. Il n'en avait pas été question jusqu'à maintenant. Et les premiers travaux véritablement, disons, coordonnés sur ces phénomènes se rapportent à l'observation des couleurs à la surface des lames minces, et ils furent l'œuvre de Robert Boyle dans ses Experiments on Consideration Touching Colors, publié à Londres en 1664. Alors, ces études sont prolongées par celles de Robert Hooke, et vous allez voir, à titre de curiosité, je n'expliquerai pas ce que fait Robert Hooke, mais c'est simplement pour illustrer, voilà, la genèse des phénomènes à la surface d'une lame mince. Donc Robert Hooke combine, comme le fera Fresnel plus tard, combine un rayon, le rayon incident qui se réfléchit, et le rayon réfléchi par la face inférieure et qui retraverse la face supérieure, et combine les deux. Alors, ce qui est intéressant, d'un point de vue, disons, de priorité historique, c'est que Robert Hooke va faire l'expérience dite des anneaux de Newton. Il étudie, il met ses deux lentilles, et il observe les anneaux. Alors, la seule différence entre l'expérience des anneaux de Newton et celle de Robert Hooke, c'est que Newton, lui, parce qu'il veut avoir le concept de lumière monochromatique dont je vais parler dans quelques minutes, sait mesurer, effectivement, calculer la loi de répartition des anneaux en fonction de l'épaisseur, ce que Robert Hooke ne sait pas faire. C'est ça la grande nouveauté. Mais l'expérience en elle-même est faite par Robert Hooke. Elle est faite aussi à la même époque et avant Newton par Christian Huygens. Voilà, alors ça, c'est le deuxième phénomène expérimental nouveau. Le troisième, c'est en 1669, Erasme Bartholin, qui découvre la biréfringence en manipulant des cristaux de spathe d'Islande, c'est-à-dire de calcite, et il publie ses observations dans un petit mémoire, Experimenta Cristalli Islandici Didiasclastici, publié à Copenhague en 1669, et il y décrit en particulier comment ces cristaux dédoublent les images des objets ou des écrits sur lesquels ils sont placés et introduit les termes utilisés encore aujourd'hui de réfraction ordinaire et de réfraction extraordinaire. Donc on a évidemment tous les phénomènes de polarisation vont être directement liés à ces observations. Et puis le quatrième point important, c'est celui qui est relatif à la vitesse de la lumière, dont il n'a pas été question, sauf que tout à l'heure, il en a été, via Descartes, il a été dit que la lumière se propage de façon instantanée, mais qu'elle va quand même, qu'elle passe plus aisément dans tel ou tel milieu, mais qu'en est-il effectivement de la vitesse de la lumière? Alors c'est en 1676 que l'astronome Ole Rømer, alors qu'il séjourne à l'observatoire danois, invité étranger à l'observatoire de Paris qui vient d'être bâti, déduit des irrégularités apparentes de la période des satellites de Jupiter une méthode de mesure de la vitesse de la lumière. Et ces résultats sont publiés dans le Journal des Savants du lundi 7 décembre 1676, et Rømer parvient à une valeur approximative de la vitesse de la lumière. Si on calcule en fonction de ces données, lui ne fait pas le calcul, mais on peut le faire, effectivement, on obtient quelque chose autour de 215 000 km par seconde, c'est pas mal du tout, c'est très raisonnable comme résultat. Alors, l'ensemble de ces mesures et observations impose donc une refonte complète de l'optique cartésienne, qui avait été l'optique, notre point de départ, et qui est le point de départ à l'époque. La mise en place d'une nouvelle théorie cohérente de la nature de la lumière, susceptible de rendre compte de tous les nouveaux résultats, devient alors une tâche d'une extrême difficulté qui va occuper les savants jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'optique, à partir de 1650 jusqu'à, en gros, on peut dire jusqu'à 1750, jusqu'à 1850, va avoir pour objet d'intégrer dans une théorie cohérente l'ensemble des phénomènes, des nouveaux phénomènes qui viennent d'être décrits. Et effectivement, après 1850, on verra tout à l'heure, ce sera la théorie électromagnétique, et puis après, on aura de nouveaux embêtements parce qu'on aura les quantas, les photons et ces choses-là. Donc on retrouvera de nouvelles problématiques, mais là, il y a, disons, tout un champ de travail qui se met en place pendant à peu près deux siècles. Alors, il y a une chose sur laquelle, dont je n'ai pas encore parlé, et qui joue un rôle décisif dans la suite des événements, c'est les lumières homogènes. Parce qu'on parle, jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que de lumière blanche, or, tout le monde sait, ou du moins on dit couramment, que la lumière blanche est un mélange hétérogène de lumières différemment colorées. On apprend ça au lycée, on apprend ça partout. Je vous dirai tout à l'heure que c'est pas obligatoire, on peut discuter cette affaire-là. Mais il faut quand même le mettre en place, cette affaire de lumière homogène, parce que c'est absolument décisif pour la manipulation et l'évolution des théories de la lumière. Alors ça, c'est le travail de Newton. Donc je passe quelques minutes autour de Newton. Alors, un petit peu d'histoire pour situer Newton, parce que c'est quand même un moment très important. Là. Alors que l'épidémie de peste qui va ravager l'Angleterre jusqu'à l'incendie de Londres en 1666, le contexte n'est pas très facile, conduit à la fermeture de l'université, et Newton mène dans son Lincolnshire natal ses premières recherches sur la lumière et les couleurs. Alors, tout à l'heure, je faisais remarquer avec Michaud qu'il n'était pas question de couleurs dans l'ensemble des conférences. Donc je vais en parler un tout petit peu, mais uniquement au plan physique, parce qu'effectivement, les couleurs, c'est aussi tout un aspect physiologique autour des théories de la couleur, c'est un vaste sujet. Alors, les premières recherches de Newton sur les couleurs apparaissent dans des carnets de notes rédigés autour de 1664-1666. Et à cette époque, les théories de la genèse des couleurs, parce que c'est important, il faut quand même dire quelques mots, invoquent encore très largement les thèses aristotéliciennes, et celles-ci considèrent la lumière blanche comme pure et homogène, tandis que les couleurs sont caractérisées par leur éclat ou leur force et naissent d'une modification, atténuation ou obscurcissement de la lumière incidente. C'est-à-dire qu'on considérera que le rouge est une couleur plus forte, qui a plus, je dirais pas d'énergie, parce que là je modernise, mais qui a plus d'éclat, et que le bleu est une couleur plus faible, c'est-à-dire une lumière plus assombrie, tandis que le rouge est une couleur qui a plus de vivacité. Et cette théorie, c'est-à-dire cette approche de la lumière via la caractérisation de son éclat, de la manière dont elle agit sur nous, est une théorie qui ça va durer jusqu'à Newton. Alors, pour m'amuser un petit peu, pour faire un petit peu de polémique et faire un peu réfléchir, Newton est toujours associé à l'expérience du prisme. Hein. Le prisme de Newton, c'est une image absolument extraordinaire. On voit Newton, son prisme, et tout se dévoile. Bon. Alors, je tiens à faire remarquer que tout le monde avant Newton fait des expériences avec un prisme. Et tout le monde fait autre chose que lui ne fait. Donc, on pourra s'interroger sur cette question. Et en particulier, je vais vous montrer une expérience du prisme qui a pour objet de montrer que la théorie aristotélicienne des couleurs marche très bien. La voilà. Voilà. Alors, c'est très amusant. Voilà. Alors, ça, c'est le deux réfractionnés de Porta. Ça date de la fin du XVIe siècle. Alors, vous avez les... Je vais prendre ça plutôt, là, ça va être plus facile. Si ça marche. Voilà. Alors, la lumière, mettons dans ce sens-là, pénètre dans le... traverse le prisme et ressort ici. Et alors, qu'ai-je dit ? Que les lumières les plus affaiblies sont le bleu et la lumière les moins affaiblies sont le rouge. Le prisme montre ça parfaitement. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on fait une sorte de spectre ou lorsqu'on fait passer la lumière à travers un prisme, dans la situation présente, le rouge sera par ici et le bleu sera par ici. Or, qu'observons-nous ? Eh bien, que précisément la lumière traverse l'épaisseur de verre la plus faible ici, c'est-à-dire que l'incorporation de la matière du verre, l'affaiblissement de la lumière est la plus faible, et donc par conséquent, la lumière la plus forte est ici, et c'est bien le rouge. Tandis qu'ici, la lumière traversant la plus large partie du prisme, elle est très affaiblie, et bien sûr, ici, on doit avoir du bleu. C'est le bleu que l'on observe. Donc, l'expérience du prisme prouve parfaitement les théories aristotéliciennes, contrairement à ce qu'on a toujours dit, que ça permettait de prouver Newton. Et simplement pour vous montrer que je ne raconte pas n'importe quoi, voilà ce qu'écrit Marco Antonio de Dominis, un contemporain de celui-là. « Nous pouvons dire qu'il y a trois couleurs intermédiaires. La première incorporation d'opacité qui assombrit d'une certaine quantité le blanc engendre le rouge, et cette dernière est la plus lumineuse. Les couleurs intermédiaires réparties entre les deux extrêmes, le blanc et le noir, comme cela apparaît de façon manifeste avec l'expérience du prisme, les rayons du soleil pénètrent dans la partie la plus proche du sommet, dans celle qui a la moindre épaisseur, et par là même le moins d'opacité émerge rouge. Ensuite, pour une épaisseur plus importante, apparaît le vert, enfin le violet, pour l'épaisseur maximale, et si l'opacité augmente, apparaît le violet. » Vous voyez, c'est un texte de 1600, publié à Venise en 1611. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, on va la retrouver aussi chez les physiciens mécanistes, c'est-à-dire comme Descartes. Comment Descartes explique-t-il la genèse des couleurs ? Alors, on ne va pas rentrer dans tout le monde de Descartes, mais le monde de Descartes, c'est des boules qui sont contiguës les unes aux autres. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une impulsion qui se déplaçait de façon rectiligne pour expliquer la lumière. Alors, une boule, cela peut avoir quel mouvement ? Un mouvement rectiligne, mais ça peut aussi tourner sur soi-même. Donc, l'explication des couleurs, chez Descartes, sera liée à la rotation acquise par les boules, qui constituent le milieu qui occupe tout l'univers. Et cette rotation acquise au moment de la réfraction, eh bien, Descartes nous expliquera, écoutez, je peux vous montrer juste un petit transparent à titre de curiosité. Ça, c'est l'expérience du prisme de Descartes, pour vous dire que tout le monde fait du prisme, on aime le prisme. Il y a même des contemporains, j'ai tout mis dessus. Alors en haut, c'est l'expérience de Descartes, effectivement du prisme. Voilà. Et puis, en dessous, j'aime bien les deux en dessous parce qu'on voit les boules qui acquièrent une certaine rotation. Et alors, Descartes explique, je ne rentre pas dans le détail parce que là, ça serait trop long, Descartes explique que les boules qui vont avoir la tendance à tourner le plus vite provoquent la sensation du rouge, tandis que celles qui tourneront le moins vite provoqueront la sensation de bleu. Et donc c'est exactement une transposition de la théorie traditionnelle en termes mécanistes, mais il n'y a pas de nouveauté, simplement c'est la forme mécanique d'une théorie traditionnelle, c'est-à-dire que la caractérisation des couleurs se fait toujours par, disons, l'éclat ou l'effet qu'elle provoque sur la rétine. Et effectivement, c'est dans ce cadre explicatif, parce que tout le monde fait ça à l'époque, hein, c'est dans ce cadre explicatif que Newton commence ses expériences avec un prisme. Et pour la curiosité aussi, parce qu'il faut faire un peu d'histoire, voilà la première page du manuscrit de Newton, où Newton commence à travailler sur les couleurs. Alors bien sûr, Newton travaille avec un prisme, mais il ne fait pas l'expérience du prisme de Newton. Il étudie plutôt des phénomènes d'iridescence, ce qu'on appellerait aujourd'hui phénomène d'iridescence. Alors, c'est la page du manuscrit. Alors, ça n'a pas une qualité extraordinaire, mais c'est quand même, c'est merveilleux, c'est une page du manuscrit des carnets de notes de Newton de 1664, où il commence, off colors, en haut, et il commence à travailler sur les couleurs. Et ce qu'il fait ici, c'est prendre un prisme, et ce prisme, il regarde au travers, et il regarde quoi au travers? Il regarde deux bandes, l'une plus sombre que l'autre, et il étudie, il se pose la question de la nature des couleurs qui apparaissent, que l'on voit à la limite de ces deux zones sombres et lumineuses. Alors effectivement, il se place là dans la conception traditionnelle, parce que ce qu'il veut voir, c'est ce qui se passe dans les mélanges d'ombre et de lumière. On est tout à fait dans une conception traditionnelle, et Newton part comme ça, il fait ses expériences, ce sont les premières. En revanche, Newton est rompt à ce moment-là avec la tradition, et vous verrez que ça présente un certain intérêt, c'est que la lumière chez Aristote était homogène, et tout le monde considérait la lumière comme pure et homogène, et subissait une transformation, une modification lors de son passage d'un milieu dans un autre. Pour Newton, qui lui est un atomiste fervent dès le départ, la lumière est composée de corpuscules qui peuvent aller avoir différentes vitesses ou différentes masses. Donc sa lumière est d'entrée de jeu et théoriquement, disons, non homogène, c'est-à-dire qu'on va avoir des corpuscules de différentes natures. Alors, la question, c'est au cours de l'hiver 1666 que Newton va formuler, enfin il le formule à l'automne, parce que sa théorie définitive consiste en fait, l'idée, et c'est là qu'il y a un aspect très très hypothétique dans le travail newtonien, c'est-à-dire qu'il il a cet ensemble d'observations d'une part, d'autre part il fait comme tous ses contemporains, il ne faut pas oublier que tous les contemporains à l'époque travaillent sur essayent de polir des lentilles de forme autre que sphérique pour résoudre des problèmes d'achromatisme, et Newton fait ça lui aussi. On peut imaginer Newton chez lui, alors qu'il y a l'incendie de Londres, il y a la peste, il est là en train de avoir toutes ses activités, et il formule l'hypothèse qu'il n'y a pas de surface susceptible de permettre à tous les rayons de converger en un foyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surface si la lumière est un mélange hétérogène de rayons différemment effrangibles. Et ça, c'est l'hypothèse qu'il formule, et c'est une hypothèse fondamentale, c'est-à-dire qu'il formule cette hypothèse, et c'est à partir du moment où il va formuler cette hypothèse qu'il va réécrire tout ce que l'on connaît sur la lumière et les couleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que c'est parce qu'il a fait l'expérience du prisme que c'est arrivé, non, c'est ce que je vais vous le montrer, mais c'est parce qu'il il formule cette hypothèse que maintenant, les choses vont se remettre en place. Et en particulier, il est très intéressant, ça c'est un peu un aspect épistémologique, une réflexion un peu épistémologique, de constater que dans le carnet de notes que Newton va poursuivre, en 1666, il en réécrit un, et c'est un nouveau carnet de notes, c'est-à-dire celui dans lequel on lit pour la première fois ce qui va constituer finalement notre théorie de la lumière et des couleurs, la manière dont nous concevons la lumière et les couleurs. Eh bien, là, il va commencer non pas par l'expérience du prisme, mais par des expériences identiques à celles qu'avait fait Boyle dans ses Experiments and Considerations Touching Colors. Et il y a quelque chose de très amusant et de très intéressant, c'est que Boyle et Newton vont décrire la même expérience, mais les yeux de Newton ne sont plus les mêmes que ceux de Boyle. C'est-à-dire que les yeux de Newton, eh bien, ce sont les nôtres. Pourquoi ? Eh bien, lorsqu'on utilise une feuille d'or extrêmement fine et qu'on envoie un rayon, on envoie de la lumière dessus, eh bien, d'un côté, c'est évidemment jaune, et de l'autre côté, on observe, il faut que la feuille d'or soit très très fine, s'entend, hein, on observe une lumière bleu-verte. Et alors, qu'est-ce que dit Boyle ? Eh bien, Boyle dit que la lumière qui traversait, il considère que la feuille d'or est pleine de pores, de petits trous, et que la lumière qui traversait les pores était lors de son passage si tempérée par de l'ombre et modifiée que l'œil ne discernait plus une couleur or, mais une couleur bleu-vert. C'est-à-dire que pour Boyle, la lumière qui traverse la feuille d'or est modifiée, atténuée, obscurcie. Or, qu'écrit Newton lorsqu'il décrit strictement la même expérience ? Les rayons réfléchis par une feuille d'or sont jaunes, ceux qui sont transmis sont bleus, comme cela apparaît en tenant une feuille d'or. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, dans la lumière de Newton, des rayons jaunes réfléchis et des rayons bleus transmis. Il n'y a plus un affaiblissement, c'est-à-dire que la conception même de la lumière, dans la description de l'expérience, est transformée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes de fait newtoniens. Notre regard est a priori newtonien, car personne ne dirait que de la lumière est affaiblie ou obscurcie en traversant une feuille d'or. On dirait évidemment qu'il y a des rayons réfléchis et des rayons transmis. C'est un discours totalement différent, mais c'est un discours totalement théorique. Cela étant, une fois que Newton a décrit ces choses-là, eh bien, il peut refaire l'expérience du prisme. Et il fait une expérience du prisme, mais qui n'a plus aucune commune mesure avec celle que faisaient ses contemporains. Et simplement, vous avez vu l'expérience du prisme que j'ai montré tout à l'heure, les expériences du prisme de Descartes. Eh bien, maintenant, voilà la première expérience du prisme de Newton, celle qu'on trouve dans ce fameux carnet de notes. Voilà. Alors, elle est là. Elle est plus ou moins à l'envers, ce que j'ai mis là, c'est plutôt... C'est encore plus à l'envers. Bon, c'est pas tant, puis c'est pas grave. On va la lire dans l'autre sens. Alors, la lumière... Alors, pour Newton, d'abord, Newton va se placer dans une pièce sombre. On va étudier la lumière maintenant dans une pièce sombre, ce qui est tout à fait surprenant, ce qui surprendra les contemporains, qui étudiaient toujours la lumière en pleine lumière. Et d'ailleurs, Goethe, à la fin du 19e siècle, dira « c'est quand même Newton est un type très étrange, il étudie la lumière dans l'obscurité ». Je vous laisse méditer sur cette question. Alors effectivement, on se place dans une pièce sombre, on a le soleil, on fait un petit trou dans son volet pour faire passer un faisceau de lumière extrêmement étroit. Goethe dira que l'on abîme la lumière. Bon, on pourra réfléchir là-dessus aussi. La lumière arrive là, passe par un deuxième diaphragme et arrive sur le prisme. Elle arrive sur le prisme, traverse le prisme, et ici on a la fameuse figure de diffraction, la fameuse observation du spectre. Bon, enfin, pour observer ce spectre correctement, c'est ce que Newton va se mettre dans des conditions idéales. Une pièce sombre, l'écran est placé très loin, on a donc des diaphragmes, et le prisme est placé dans une position dont je n'ai pas encore parlé, mais on ne peut pas rentrer dans les détails, il est placé au minimum de déviation, c'est-à-dire là où l'image de la source circulaire devrait être circulaire, c'est-à-dire que dans une position très particulière du prisme. Et d'ailleurs, les contemporains ne comprendront absolument rien au texte de Newton, ils ne sauront pas refaire l'expérience. Cela montre bien à quel point l'expérience du prisme de Newton n'est pas une expérience... disons, à partir de laquelle un esprit innocent va lire les réalités de la nature, mais une expérience montée pour vérifier une hypothèse que l'on a formulée. Et ce qui va permettre de définitivement mettre en place la théorie newtonienne, c'est ce que Newton appelle son experimentum crucis, et qui est donné pour la première fois en 1672. Voilà l'experimentum crucis de Newton, qui a pour objet de démontrer que la lumière blanche est un mélange hétérogène de rayons diversement colorés. Alors, voilà l'expérience. La lumière du soleil arrive sur un premier prisme. Ici, on a une planche percée d'un trou, une deuxième planche percée également d'un trou, un deuxième prisme et un écran ici. Alors, l'intérêt des deux planches ici, c'est de faire en sorte que lorsque l'on fait tourner ce prisme-là, on fait tourner le prisme de façon à faire défiler devant cette petite ouverture successivement toutes les différentes couleurs du spectre. Donc on fera passer les rayons de différentes couleurs. Et ils arriveront, puisqu'on a deux trous ici, sur ce prisme, tous sous la même incidence. Puis ils seront à nouveau réfractés ici. Alors, de cette expérience, on conclut quoi ? Ben, d'une part, que les rayons qui sont ici les plus réfractés seront aussi ici les plus réfractés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, puisqu'ils arrivent tous sous la même incidence, donc on peut bien les comparer. Et que deuxièmement, la lumière qui était dispersée ici, une lumière blanche dispersée en ces diverses couleurs, ici, si l'on fait passer un rayon rouge, il arrive là et il ressort rouge. C'est-à-dire que la lumière n'est plus à nouveau dispersée. C'est-à-dire que ce qui est mis en place ici, c'est le concept de lumière homogène, c'est-à-dire une lumière qui n'est plus susceptible à un degré de réfrangibilité donné, c'est-à-dire un indice de réfraction fixé, et qui ne peut plus être dispersée par un autre prisme. C'est le concept de lumière homogène. Alors, cette expérience que Newton appelle expérience cruciale, elle lui permet à lui de conclure la chose suivante, c'est que de l'ensemble des lumières qui sont dispersées ici, il conclut que toutes existent ici, et donc que la lumière est un mélange hétérogène de rayons diversement réfrangibles. Voilà, ça c'est l'expérience qui permet de la mise en place. Alors, là, juste une remarque, cette expérience qu'il définit comme expérience cruciale n'est pas cruciale. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'expérience cruciale en physique, de façon générale, mais celle-là ne l'est pas, parce qu'on n'est pas en droit de conclure de l'existence d'une multiplicité de rayons hétérogènes, de rayons homogènes ici, au fait que tous ces rayons se retrouvent là. On peut très bien concevoir qu'avant le prisme, ils étaient mélangés en une seule onde. Mais je dis bien en une seule onde. C'est-à-dire que ce qui permet à Newton de faire en sorte que cette expérience soit une expérience dite cruciale, c'est qu'il a a priori l'idée que la lumière est, disons, atomique, ou plutôt que c'est une théorie de l'émission, ce sont des particules. Donc les particules arrivent et sont séparées. Si on imagine que c'est une impulsion qui arrive, on peut très bien concevoir que le prisme décompose l'impulsion en utilisant des séries de Fourier, là je modernise, et que l'on a les lumières homogènes après. Alors, à cet égard, juste pour faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, cette critique de l'expérience cruciale de Newton a été faite immédiatement par Robert Hooke, mais il n'avait pas les moyens mathématiques de la mettre en place. En fait, elle est définitivement, disons, construite, cette critique, par Georges Gouy, que l'on connaît plus très bien, qui est un physicien français qui a écrit un mémoire en 1886, donc à la fin du 19e siècle. Il s'intéressait en particulier au rayonnement émis par des tubes, donc des petits paquets d'ondes, si l'on peut dire. Et dans le journal de physique théorique, il publie un mémoire sur le mouvement lumineux. Ce texte est repris par Wood et on en a une formulation extrêmement intéressante par Fleury et Mathieu en 1970 dans le tome 5 de leur physique générale expérimentale et qui permet de voir comment on peut concevoir la lumière. Chaque centre lumineux dans un corps incandescent, 1970, hein, je dis bien, chaque centre lumineux dans un corps incandescent doit émettre des trains d'ondes finis. On s'est jadis demandé si l'on devait considérer la lumière blanche comme formée d'un mélange de tous ces trains d'ondes ou comme le résultat de leur composition. On sait aujourd'hui que la question est illusoire, en ce sens qu'on ne connaît pas d'expérience permettant de choisir entre les deux conceptions. Dans la première, les trains d'ondes existent dans le faisceau de lumière blanche. Le spectroscope les sépare, le spectroscope ou le prisme, les sépare et ils sont capables d'interférer. Du second point de vue, les diverses vibrations émises par la source se composent en un mouvement résultant qui se propage sous la forme d'un train d'ondes très court, ne présentant même plus aucun caractère de périodicité et constituant une pulsation d'énergie rayonnante. De fait, il faut être prudent quand on dit que la lumière est un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles. C'est simplement une manière de dire les choses, mais ce n'est pas une manière absolue, comme on a tendance à le croire ou à le dire habituellement. Alors là, c'est une chose qui m'a toujours stupéfait, c'est qu'on trouve toujours dans les livres anglo-saxons cette remarque-là de Fleury et Mathieu, on la trouve absolument jamais dans les livres français. C'est pour ça que j'ai cité Fleury et Mathieu, qui sont les seuls, à ma connaissance, à l'avoir dit. Pourtant, c'est Gouy, ça a été travaillé. Il y a des discussions avec Poincaré au début du XXe siècle autour de ces questions extrêmement classiques, enfin, mais très intéressantes du point de vue de la mathématique, parce que ça met en place, disons, du point de vue de l'optique, tout ce qui est des transformés de Fourier. Alors voilà pour l'expérience cruciale de Newton. Donc ce qui est important du point de vue de l'expérience cruciale de Newton et ce qu'il faut bien avoir, bien voir comme résultat, c'est ce qui est mis en place, ce n'est pas l'hétérogénéité de la lumière blanche, on a vu que c'est quelque chose sur lequel on peut discuter, mais c'est le fait des lumières monochromatiques. Et c'est un fait qui n'est pas directement observable, puisqu'il faut monter une expérience. Donc c'est un vrai fait scientifique à partir duquel on va pouvoir refaire toutes les expériences, ce que fera Newton. Mais la lumière monochromatique, c'est vraiment un fait scientifique construit, et épistémologiquement c'est intéressant, puisqu'avant personne n'en a jamais observé, et que c'est très difficile à effectivement, disons, faire observer à quelqu'un. Maintenant, pour tout physicien, la lumière monochromatique, c'est d'une simplicité extrême. Tout le monde a des lasers, tout le monde observe la lumière monochromatique. Il faut bien concevoir, à mon avis, que cette lumière monochromatique reste fondamentalement quelque chose, disons, qui repose sur une théorie. Ce n'est pas un fait pouf comme ça. C'est une théorie qu'on a mis en place qui reste fondamentalement hypothétique. Et c'est intéressant de voir que toute la théorie atomique au XXe siècle est basé autour des années 1900-1920 sur ces questions de rayonnement et d'émission et de radiation monochromatique qui restent effectivement à l'intérieur d'une démarche profondément hypothétique. Voilà, alors, cela étant, après avoir dit tout ça, bien, on a vu que lumière homogène, lumière hétérogène, cela renvoyait au débat onde-corpuscule, parce qu'on avait l'expérience cruciale de Newton était une expérience cruciale si on était en présence de corpuscules. Donc je vais pouvoir revenir maintenant à mon débat sur onde ou corpuscule. Alors, très rapidement, au cours du XVIIe siècle, deux grands courants se dessinent parmi les savants, suivant que ceux-ci considèrent que la lumière est un corps, ou bien le mouvement d'un corps sans transport de matière. Dans le premier cas, il s'agit des théories dites de l'émission, dont le principal représentant est Newton, et dans le second cas, des théories dites des milieux, dont le principal représentant est Huygens. Alors, pour Newton, les sources lumineuses, comme par exemple le Soleil, émettent des corpuscules qui se propagent à travers le vide jusqu'à nos yeux. Et une telle théorie, il faut voir pourquoi on peut l'adopter, une telle théorie permet d'expliquer assez facilement, comme Newton le montre, la propagation rectiligne, la réflexion, la réfraction et la vitesse finie de la lumière. En revanche, elle reste pour l'essentiel inopérante dans le cas des autres phénomènes, en particulier lorsqu'interviennent des aspects périodiques. Et c'est pour cela qu'au XIXe siècle, diffraction et interférence seront les deux phénomènes clés qui permettront de casser la théorie corpusculaire de la lumière et de la remplacer par une théorie ondulatoire. Ainsi, dans le cas des lames minces, Newton imagine sa théorie dite des accès, qui réintroduit d'une certaine façon la considération d'un milieu interagissant avec les rayons, ou dans un esprit plus strictement corpusculariste, de nouvelles propriétés intrinsèques du rayon, comme en témoigne par exemple son interprétation du phénomène de la réflexion partielle. Phénomène extrêmement difficile, la réflexion partielle, de l'expliquer en théorie ondulatoire, en théorie corpusculaire. Parce que comment comprendre que des corpuscules pénètrent et que d'autres ne pénètrent pas ? La réflexion partielle est un des objets qui permet de travailler l'ensemble des théories de la lumière. C'est une réflexion autour de cette question qui paraît extrêmement triviale, mais qui ne l'est pas. Et par exemple, Newton explique les phénomènes d'interférence avec ses accès sans utiliser la réflexion partielle. Il y a une autre manière. Et pour lui, ainsi, d'après Newton, les accès appartiennent probablement, il ne peut pas faire autrement, aux rayons dès leur origine, de sorte que lorsqu'ils rencontrent une surface réfringente, ceux qui sont dits dans un accès de facile réflexion, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, sont réfléchis, et ceux qui sont dans un accès de facile transmission sont transmis. Quant à l'interprétation du phénomène de la diffraction, que Newton appelle de façon significative phénomène d'inflexion, il n'y a pas de diffraction pour Newton, il n'y a que de l'inflexion, c'est-à-dire que la lumière subit des réfractions successives, mais il n'introduit pas ce phénomène de propagation spécifique qu'on appelle diffraction et qui sera précisément le phénomène qui permettra à Fresnel de montrer la supériorité au début du XIXe siècle des théories ondulatoires. Alors, voilà les difficultés pour ce qui relève des théories corpusculaires. Pour les théories ondulatoires, à l'inverse de la théorie newtonienne, celle de Huygens s'inscrit pleinement dans les théories des milieux. Cependant, par son approche très subtile du mode de propagation de la lumière, Huygens, qui renouvelle l'ancien concept géométrique de rayon, en effet, dans son traité de la lumière, publié à l'aide en 1690, Huygens compare la lumière au son et en conséquence assimile la lumière à la propagation dans le temps d'une vibration longitudinale, c'est-à-dire parallèle au rayon à travers un milieu ou éther matériel. L'analyse du mouvement se produisant dans la matière éthérée conduit Huygens à considérer que tous les points d'une onde peuvent être le siège d'un nouvel ébranlement et leur enveloppe constitue alors une nouvelle surface d'onde susceptible de se propager indéfiniment. Il dégage ainsi le cadre général du principe de Huygens-Fresnel, ou principe de l'enveloppe des ondes élémentaires dont le rôle est si important dans la construction de l'optique de Fresnel et dans la compréhension des phénomènes de diffraction au XIXe siècle. Et ce qui est important à ce moment-là, pourquoi est-ce que ça marche au XIXe siècle, lorsque le développement de l'analyse mathématique permet enfin d'utiliser ce principe de façon pertinente. En effet, pour calculer les figures de diffraction pour un petit trou, il faut manipuler l'analyse mathématique de façon extrêmement performante, y compris d'ailleurs même simplement pour rendre compte de la propagation rectiligne de la lumière, ce qui n'est absolument pas le cas pour Huygens, mais qui devient le cas avec le développement de l'analyse, calcul différentiel et intégral, pour Fresnel au début du XIXe siècle. Donc ce sont les travaux mathématiques, disons l'école mathématique française du début du XIXe siècle, qui permet entre autres de revenir sur les théories corpusculaires de la lumière. Alors, s'appuyant toujours sur son modèle théorique, Huygens s'attache ensuite à rendre compte de la réfraction et il est, contrairement aux tenants des théories de l'émission, conduit à démontrer, comme Pierre Fermat, que la lumière, dans le cadre de sa théorie, se propage plus vite dans l'air que dans le verre. Ces conséquences divergentes des théories de l'émission et des milieux seront mises à profit dans la première moitié du XIXe siècle pour rejeter, à la suite des expériences d'Hippolyte Fizeau et de Léon Foucault, les théories de l'émission. Puisque ces expériences sur la vitesse de la lumière iront dans le sens des théories ondulatoires. Alors, c'est... C'est Malus qui introduit au tout début du XIXe siècle, dans le cadre de la théorie corpusculaire, le terme de polarisation. C'est important. Cette théorie, développée quelques années plus tard par Jean-Baptiste Biot, est rapidement supplantée par l'optique ondulatoire fresnelienne, reposant sur l'hypothèse de la transversalité des vibrations lumineuses. Et de Huygens à Fresnel, les ondes lumineuses, en raison du problème de la polarisation de la lumière, sont passées des ondes transversales, enfin longitudinales, c'est-à-dire à l'image du son, à des ondes transversales, qui implique, disons, une rigidité du milieu un peu difficile à interpréter. Alors, au XVIIIe siècle, newtonien et corpusculaire succèdent, après les expériences de Fizeau et Foucault et les splendides travaux théoriques d'Augustin Fresnel, un XIXe siècle ondulatoire. Celui-ci, tout d'abord marqué par l'hypothétique éther de Fresnel, aux propriétés mécaniques difficilement conciliables, est ensuite investi, à partir des années 1870, par la théorie électromagnétique de James Clerk de Maxwell, qui reste évidemment une théorie ondulatoire. Maxwell conclut, sur la base de ses équations, les équations de Maxwell, que dans le cas d'un signal électromagnétique variable, le milieu dit électrique peut être le siège d'ondes transversales, dont la vitesse de propagation est similaire à celle de la lumière. Ainsi se trouve rapproché l'éther lumineux de Fresnel et l'éther des actions électromagnétiques. Cette intégration de la lumière dans les phénomènes électromagnétiques oriente alors Maxwell vers le délicat problème du mouvement relatif de la Terre et de l'éther. Ce problème culmine avec la mise en place en 1887 de la célèbre expérience de Michelson et Morley, expérience qui conduit finalement à conclure qu'il est impossible, au moyen d'une expérience physique, quelle qu'elle soit, de détecter le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, et la voie est donc ouverte aux théories einsteiniennes de la relativité. Et en 1905, Einstein publie simultanément son mémoire sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui pose les bases de la théorie de la relativité, et celui de l'effet photoélectrique qui introduit en fait l'hypothèse des quantas de lumière. Ce dernier mémoire remet donc en question la nature strictement ondulatoire et continue de la lumière défendue au XIXe siècle. Cette double nature de la lumière, c'est cette double nature de la lumière que Louis de Broglie tente de comprendre et d'interpréter dans ses recherches sur la théorie des quantas de 1924, c'est sa thèse, et il émet dans cette thèse l'hypothèse que la dualité onde-corpuscule, donc qui est un vieux débat qui date de Descartes, est une propriété générale des objets microscopiques et que la matière présente, comme la lumière, un double aspect ondulatoire et corpusculaire. Cette hypothèse se trouvera très vite confirmée par l'observation de phénomènes de diffraction avec des électrons, ces expériences de Davison et Germer en 1927 et de Thomson et Rupp en 1928. En généralisant la notion d'onde de matière, Schrödinger parvient à l'équation bien connue de la propagation de la fonction d'onde, représentant un système quantique donné, associé au concept d'amplitude de probabilité, qui donne son assise à celui de photon, ni onde, ni particule. Et d'autres en parleront mieux que moi. Finalement, l'élégant formalisme de la théorie quantique est mis en place autour des années 25-30 par Paul Dirac, Niels Bohr et Heisenberg, et il fixe le cadre à l'intérieur duquel les phénomènes lumineux sont aujourd'hui étudiés. Je vous remercie.
Oui, je voudrais profiter de la présence d'un historien de la lumière pour soulever deux petites questions. Tout d'abord, vous n'avez pas cité le nom de Héron d'Alexandrie, qui a quand même montré que, deux siècles avant Jésus-Christ, que la réflexion de la lumière n'est pas vérifiée des lois d'extrémum. Ce qui est quand même très important. Ça a été repris par Fermat 18 siècles après. Et puis d'autre part, la fameuse expérience d'Archimède. On dit, n'est-ce pas, lors du siège de Syracuse par les Romains, il a incendié la flotte romaine. Bon, est-ce une légende? Y a-t-il quelque chose de vrai dans cette histoire?
Ah, c'est une légende aussi, il y a quelque chose de vrai. Écoutez, bon, d'abord, je n'ai pas cité Héron d'Alexandrie, mais il y a un nombre considérable de personnes que je n'ai pas citées et qui ont un rôle important dans l'histoire de la lumière. Quant à... écoutez, là, je n'ai pas, moi, de réponse. Je pense que ça relève un peu de la légende, que les conditions de possibilité étaient données, mais que je crois que ça relève quand même beaucoup de la légende, cette histoire. Mais là-dessus, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire antique. Voilà. C'est une légende très célèbre, comme la pomme de Newton, comme toutes ces choses-là, qui ont toujours une dose de vérité, mais une dose seulement.
Bonjour, monsieur.
Non, ici.
Je suis là.
Ah, vous êtes là.
Me référant à la dernière fois que je suis allé en boîte de nuit, il y a 20 ans, je me souviens qu'il y avait des lumières avec la lumière, avec le son. Donc j'en déduisais à l'époque, j'étais encore plus nunuche que maintenant, j'en déduisais qu'on pouvait mettre en lumière les ondes des sons. Les sons, c'est... Bon. Alors du coup, aujourd'hui, je sais pas si je suis pas plus nunuche, surtout après votre cours qui est extraordinaire, qui m'a éclairé, je voudrais savoir si on ne peut pas mettre les sons en lumière en jouant, justement en faisant s'interférer des ondes entre elles.
On ne peut pas faire interférer des ondes de lumière et des ondes sonores, ça c'est clair, mais on peut associer les deux, et ça c'est vieux. Dès le XVIIIe siècle, le père Louis-Bertrand Castel avait associé, disons, un orgue musical avec, avec différentes couleurs. Donc l'association, disons, technique de la lumière et des couleurs peut se faire, mais pas de faire interférer les choses ensemble. C'est deux phénomènes différents qu'on peut faire, disons, qu'on peut associer techniquement. Alors, actuellement, on peut effectivement jouer sur... on peut faire de la musique dans les boîtes de nuit que vous fréquentez assidûment. Donc on peut faire... On peut faire de la musique et, disons, on a des capteurs sonores qui font fonctionner des faisceaux laser. Donc on a une coïncidence entre les deux phénomènes, mais qui sont deux phénomènes distincts. Voilà. Et les lasers, c'est de la lumière monochromatique et on doit toujours penser à Newton quand on va en boîte de nuit. Voilà.
Monsieur.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les idées de Goethe sur la lumière? Parce qu'apparemment, elles sont assez originales, mais... un peu controversé peut-être.
Oui, on peut dire quelques mots sur les idées de Goethe. Alors, ce qui est un peu, bon, Goethe est toujours présenté comme, disons, c'est le père de la philosophie naturelle allemande, si je puis dire, comme l'opposé de Newton. Je ne pense pas que ce soit l'opposé de Newton. C'est une autre manière d'aborder les phénomènes de la lumière. Et chez Goethe, ben, il y a différents aspects dans la pensée de Goethe, mais il y a un retour effectif à la, disons, au travail traditionnel, c'est-à-dire Goethe s'intéresse au mélange d'ombre et de lumière, à la façon des anciens. Et tout le travail de Goethe me paraît extrêmement intéressant du point de vue de l'optique physiologique, toutes les descriptions d'observations qu'il fait, et du point de vue du mélange des pigments, qui est un problème qui n'est absolument pas traité par moi ici, et qui appartient en propre à Goethe et qui va avoir, disons, sa descendance au XIXe siècle dans les développements d'optique physiologique, que ce soit Helmholtz ou même Maxwell dans l'aspect physiologique. Donc c'est d'autres problèmes que se pose Goethe. Mais de ce point de vue-là, il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsqu'on parle de Newton, et je ne l'ai pas dit parce que bon, on a un temps limité, lorsqu'on parle des couleurs de Newton. Newton ne pose pas la question que se poserait Goethe, qu'est-ce que le bleu, qu'est-ce que le rouge ? C'est des questions de peintre, si je puis dire, de physiologiste qui essaye de saisir la spécificité du bleu ou la spécificité du rouge. Ce que Newton fait, c'est simplement donner un indice de réfraction à des rayons que l'on perçoit de telle ou telle couleur. Il ne dit pas ce que c'est que le rouge, ce que c'est que le bleu. Et de ce point de vue, c'est une problématique extrêmement différente. C'est pour ça que Goethe est toujours décrié, mais à mon avis, il ne parle pas exactement de la même chose. Alors, ils sont dans une situation à la charnière du 18e et 19e, Goethe est dans une position où, évidemment, il ne perçoit pas exactement où il va aller. Mais maintenant, si on prend un regard récurrent, on voit bien qu'il y a fondamentalement chez Goethe la mise en place d'une critique de Newton qui se situe, mais où est l'optique physiologique chez Newton ? Newton ne parle jamais de la perception de la couleur, des sensations et de ces choses-là. C'est pas son registre. Donc c'est bon, mais il faudra construire tout cela, parce que lorsque la lumière monochromatique est construite, il faudra bien après se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait et comment se fait-il que je perçois du rouge là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est pour ça qu'il faut, je l'ai dit au début, que les champs du savoir sur la lumière doivent être construits. Il faut donc la physiologie, comment ça va au cerveau, l'image mentale, bon, on travaille beaucoup aujourd'hui en science, en cognitivisme autour des phénomènes de la couleur, par exemple. Alors, donc c'est autre chose, Goethe, c'est pas un ennemi de Newton, je ne le pense pas, c'est une saisie un peu différente des phénomènes de la couleur, mais il y avait d'autres contemporains pas très loin, disons, dans la même perspective que Goethe, et il y en a un que Goethe cite, qui est connu chez nous pour autre chose, que pour ses théories de la lumière et des couleurs, c'est Marat, Jean-Paul Marat, l'ami du peuple, qui a traduit Newton et qui a beaucoup travaillé sur les couleurs et qui a proposé une théorie de la couleur dont Goethe dit elle est fort intéressante. Voilà.
Madame.
Excusez-moi, je voulais vous poser une question un peu voisine. Je suis là.
C'est vraiment les oreilles, c'est pas ça.
C'est l'apport. Est-ce qu'il y a eu un apport des peintres, des coloristes de tous les temps à l'étude de la lumière et... Écoutez, ou bien c'est le même genre d'apport que Goethe, c'est-à-dire c'est plus physiologique ou physique quant à la matière.
C'est vraiment des sujets différents. Le seul point de convergence, si vous voulez, que l'on trouve entre les théories de la lumière et Newton, hein, ce lumière et couleur Newton, et ce qui relève, disons, de la démarche picturale, c'est le problème du nombre des couleurs. Alors c'est la fameuse théorie trichromique des peintres, et qui disent, et des fameuses sept couleurs de Newton. Alors ça, je n'en ai pas parlé non plus, des sept couleurs de Newton. Évidemment, il n'y a pas sept couleurs. Il y a sept couleurs parce que Newton veut faire des comparaisons avec la musique, enfin pour retrouver une octave, hein, c'est ça. Donc il rajoute des couleurs. Personne n'a jamais vu cette couleur dans un arc-en-ciel, sauf nous qui sommes newtoniens. Mais avant, personne. Et si on n'est pas newtonien, on en voit trois, quatre à la limite, hein, sept jamais. Et en plus, ce ne sont pas sept couleurs, ce sont sept nuances principales dans un nombre indéfini. Et c'est sur ce point-là qu'ils vont discuter. Mais si vous voulez, le point de convergence est quasi nul. Et l'apport des coloristes, il se situera à un autre niveau, effectivement. Il se situera du côté de l'optique physiologique, après, au cours du XIXe siècle, lorsque, par exemple, les pointillistes vont utiliser telle ou telle théorie, mais d'observation des couleurs. Nous ne sommes pas dans la physique de la couleur ni la physique de la lumière dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est un autre monde, mais qui est un monde complémentaire. Il faut bien, et c'est ce qu'on sur un sujet de travail aujourd'hui, il faut bien arriver à faire converger tout ça, quand même.
On va prendre une avant-dernière question.
J'ai deux questions, en fait.
Allez-y.
Donc, je suis ici, en haut.
Oui, ça j'ai vu, là-haut, oui.
Donc, concernant l'expérience de Romer, vous avez dit tout à l'heure que Romer ne s'était pas servi de son observation sur les satellites de Jupiter.
J'ai dit qu'il s'en était servi.
Oui, mais il s'en est pas servi pour calculer la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le calcul, en fait. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a fait exactement de son expérience, quelles conclusions a-t-il tirées, et d'autre part sur l'expérience de Michelson et Morlaix. Il me semblait avoir vu une fois qu'ils avaient conclu que leur expérience avait raté, puisqu'ils n'avaient pas mis en évidence l'éther. Est-ce que c'est exact ou est-ce qu'ils ont vraiment conclu que la vitesse de lumière était une constante ?
Alors, ils ont conclu que leur expérience avait raté, puisque ce qu'ils voulaient mesurer, c'était la vitesse de l'éther par rapport à la Terre ou la Terre par rapport à l'éther. Et ça, effectivement, ça n'a pas marché. Hein. Bon. Pour Romer, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne fait pas le calcul complet, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas la vitesse de la lumière et de temps. Il donne simplement des écarts observationnels et il en conclut que la vitesse de la lumière est finie. Et si on prend son mémoire, on peut soi-même faire le calcul. Lui, il ne l'a pas fait, c'est tout. C'était juste une petite remarque. Un jour, parce que maintenant je fais attention, parce qu'un jour j'ai dit qu'il avait donné cette vitesse de la lumière et un spécialiste m'a dit non. Ben, j'ai dit oui, effectivement. Alors, quand je dis l'un ou quand je dis l'autre, à chaque fois j'ai une question autour de ça. Je ne parlerai plus de la vitesse de la lumière.
Bon, alors une dernière question ici.
Oui, pour continuer avec la physiologie. À partir de quelle époque a-t-on constaté que le mélange de vert et de bleu produisait du jaune ? Est-ce que c'est à partir du moment où on a eu des lumières vraiment monochromatiques ou est-ce qu'il a fallu...
Non, ça se fait. C'est des mélanges, ça, c'est des mélanges de pigments.
Mélange de couleurs.
Oui, mais alors... Non, parce que ça, c'est... Alors, c'est un problème qui sort un peu de... Mais il y a deux façons de mélanger. On mélange soit des lumières, soit des pigments.
Oui, donc quand on mélange des lumières, on fait de l'addition, quand on mélange des pigments, on fait de la soustraction.
Et quand on fait... Donc là, pour le... Ça, c'est des lumières qu'on mélange dans le cas présent, là.
Oui.
Alors, avec le prisme, c'est comme cela qu'il pensait obtenir le jaune au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui. Si vous prenez pas un diaphragme, vous avez des faisceaux larges, et ce que vous observez finalement... avec votre spectre, vous observez d'un côté du bleu, de l'autre du rouge, un peu de vert, et puis pssst, quand ça converge, ben on doit obtenir du jaune. Mais ça, c'est oui, c'est, non, mais je vois pas de, il y a pas, ça, c'est pas un problème majeur, ça. On peut projeter sur un écran aussi, et ça on le fait. Huygens le fait avec des prismes.
Ça, c'est bien lié à la perception qu'on en a, et bien lié au fait qu'on a des différents types de
vitamines. Non, le problème, c'est très difficile. C'est très difficile de séparer ce qui relève de la perception de ce qui relève de la physique des couleurs. Et c'est là où est véritablement l'enjeu. C'est-à-dire qu'on peut faire de la lumière blanche avec cette couleur, on peut faire de la lumière blanche avec deux lumières complémentaires. Donc tout le problème est là. Donc c'est la séparation, à mon avis, la confusion entre ce qui relève de l'optique physique, de l'optique physiologique, est quelque chose qui ne commence à s'éclairer qu'au début du 19e siècle, et dans le courant du 19e siècle. Avant, c'est la confusion la plus extrême, si je puis dire.
Bien, on va en rester là. Merci.